Dynamique Radio. Dynamique Radio. Wow. Dynamique. La radio facile à écouter. Come on.
Dynamique. Dynamique Radio, bonsoir. On est en direct sur la libre antenne de Dynamique Radio. Et oui, il est 22h et on arrive en fin de saison. Et pour cette libre antenne, c'est les vacances bientôt d'ailleurs.
C'est les vacances, mais pas pour tout le monde.
Voilà, pas pour tout le monde et pas encore. Je sais qu'il y en a qui
passent. Moi, je suis en retraite.
Il y en a qui passent le bac, qui ont passé le bac, qui attendent leurs résultats.
Ouais.
D'autres qui se disent. Parce que les fins de saison, c'est
souvent. Il y en a qui vont en profiter pendant les vacances pour passer des lois pendant qu'on est en vacances.
Ah, c'est
ah les salauds, les fumiers.
Vous l'avez reconnu, c'est colonel. Colonel. C'est pas colonel réel, hein. C'est le non, colonel
c'est
de Dynamique Radio.
Il est rayé celui-là par contre.
Bonsoir, colonel. Bonsoir,
j'imagine. Bonsoir, mes amis.
Comment allez-vous, colonel?
Dans la joie. Bah, dans la joie.
Ah, bah, dans la joie.
D'être
bah,
avec vous.
Bah, oui, ça nous fait plaisir de se retrouver, hein, colonel.
Pour essayer de.
Voilà, tous les soirs à partir de 22h dans la libre antenne. Colonel, ce soir, un sujet qui nous tient à cœur, bien entendu, c'est le conflit mondial, on peut le dire comme ça.
Russo-ukrainien.
Russo-ukrainien. Ukrainien-russo.
Je sais pas comment vous dites. Moi, je vais quand même commencer par vous poser la question, retourner la question. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Chacun de vous, là, déjà.
Et avant de ça, on va te dire ce qu'on en pense. Il y a Stan. Salut, Stan.
Oui, bonjour, bonsoir.
Voilà, bonsoir, Stan. Ça va?
Stan, salut.
Ça va? Et puis, honneur aux dames, quand même, parce qu'on finit par.
Ah, Zaza! Christine, bravo! Elle est là!
Oui,
c'est,
elle est là.
C'est Zaza, c'est
Hello,
Zaza qui est là.
Elle est bronzée, elle est toute belle.
Zaza.
Zaza, elle
Qu'est-ce
sont
belles. Pas
avec les saisons, voilà. On a commencé en automne et on finit en été. Elle est de plus en plus belle. C'est comme les fleurs, elle s'ouvre.
Oui, mais parce que t'as pas de lunettes.
Et en ce moment, elle s'ouvre.
Pour une fois, qu'est-ce qu'il est mal.
Oui. C'est parce qu'on se voit pas.
Peut-être qu'il attend quelque chose de toi.
Il y a un écran entre nous deux.
Quand il me voit pas, il est aimable avec moi.
Parce que quand tu la vois, je peux dire, envie de partir en courant.
Et tu me confirmes, elle s'ouvre de plus en plus.
Oh là là, c'est pire que ça. C'est pire
Telle
que ça.
Telle les fleurs.
Telle une fleur.
Non, les fleurs, c'est Telle moins rapide que ça.
Telle les fleurs au printemps.
Là, elle s'ouvre très très vite. Ah, oui, un fleur. Coup d'arrosage, c'est ouvert.
Je connais pas cette race de fleurs. Mais...
Ah bon
c'est une...
Ah, une branche d'orchidée.
C'est peut-être
c'est
une...
Belles, c'est les belles de nuit, tu ne connais pas.
Une belle branche d'orchidée.
Les belles de nuit.
C'est la fleur Protea.
En tous les cas, c'est notre belle de cette nuit et de cette soirée, Isa.
Parce que tu sais que les orchidées ne fanent pas en deux jours.
Oui, c'est vrai.
Oui, oui.
Faut le savoir.
Mais sauf que Zaza, elle fane en deux jours.
Ah, non,
elle ne fane jamais.
Voilà.
Elle ne fane jamais.
C'est une orchidée permanente. L'orchidée permanente,
voilà.
Tu connais pas.
C'est une orchidée permanente. Si, exactement.
Un petit coup de make-up et tout va bien.
Voilà.
On va pas que de make-up. Hein.
Ah, bah, il faut quoi c'est...
Ah, bah écoute, elle nous racontera.
Bah oui. Elle nous racontera. Mais en tous les cas, colonel nous a posé une question.
Oui.
Bah oui.
Qu'est-ce qu'on en pense?
Bah oui, qu'est-ce qu'on en pense?
Qu'est-ce que vous pensez de ce problème?
Qu'est-ce qu'on. À l'heure actuelle, qu'en est-il? Quel est ton sentiment par rapport à ça?
Voilà, comment tu vois ça?
Oh là 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 là.
Attention, sujet de grand oral.
Tu te sens concerné à Paris, là?
Oui, bien sûr, je me sens concernée depuis le début du conflit, étant donné qu'il y a quand même pas mal de morts, donc et puis d'enfants qui sont déplacés, qui sont plus que déplacés.
C'est-à-dire plus que déplacés?
Bah, c'est-à-dire que visiblement, on leur demande pas trop leur consentement pour qu'ils soient emmenés en Russie sans leurs papiers.
Voilà,
ou
oui.
Alors on leur confisque, on les change de nom, on les fait adopter par des familles russes alors qu'ils ont encore de la famille en Ukraine.
C'est le sujet des enfants qui te touche particulièrement?
Non, pas spécialement, mais même les jeunes militaires.
Embrigadés pour.
Bah, les jeunes militaires qui sont obligés, entre guillemets, d'aller sur. Sur le front, quand on voit la gueule des tranchées, ça donne pas très envie, quoi.
Stan, qu'est-ce que t'en penses à l'heure actuelle?
En deux mots, dommage et dommageable.
Dommage et dommageable, voilà, c'est en deux mots. C'est
ça
vite,
veut dire
c'est...
quoi, pour toi? Ça veut dire quoi?
Que c'est dommage d'en arriver là, et que c'est dommageable parce qu'il y a des dommages collatéraux, des conséquences, voilà.
Alors, de notre... à Paris...
Quoi et toi, qu'est-ce que t'en penses?
Écoute...
parce qu'il voulait éviter la question, le salaud.
Non, moi, je veux pas éviter la question. Je pense
Merci,
pense qu'on va vers un conflit, hein, du coup, on peut
alors,
ça,
est-ce qu'on
je pense qu'on est d'accord.
Est-ce qu'on va
d'accord.
vers un conflit, c'est la question.
Et puis, depuis qu'on s'est vu, il y a quand même eu...
Pas mal de choses.
Il y a eu un barrage qui a explosé.
Ouais.
Il y a un pont qui a sauté. Il y a un sous-marin... qui a implosé.
Mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir avec les Russes. Hein. Je veux bien qu'on. Quoique,
ça pourrait se passer.
C'est la faute des
Russes.
Je suis
pour qu'on leur foute tout sur le dos, mais là, quand même, il ne faut pas.
Il a raison, ça pourrait se passer.
Non, mais ce que je vous dis, c'est de la faute des Russes parce que la matière a été première, a été russe.
Tout est de la faute des Russes.
Non, mais plus précisément, moi, je crois qu'on va vers un conflit long.
C'est vrai que alors ça, c'est très bonne réponse, Zaza. Parce que quand tu écoutes depuis 2 ans, 1 an et demi, je dirais, le discours médiatique, mainstream...
C'est que les Russes, les fautifs.
C'est toujours la faute des Russes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas...
Oui, parce que la France est très pro-Ukraine.
Non, mais c'est-à-dire que les médias ne donnent pas la parole à un point de vue différent. Et surtout, ce qui est un petit peu surprenant, c'est qu'effectivement, tous les autres points de vue, comme par hasard, sont étouffés.
Alors, je ne suis pas vraiment d'accord
sauf
avec toi, parce que...
Radio.
Ah. Sauf à Dynamique Radio,
non,
bien sûr.
Mais même pas uniquement, quand t'écoutes certains médias, on laisse quand même la part belle à certains généraux russes, à certains présentateurs télé de la première chaîne russe, qui fait énormément de propagande. Il y a quand même pas mal de gens il y a quand même pas mal de gens qui sont interviewés, qui sont ou vivent là-bas, ou sont des personnalités ou des militaires haut gradés russes.
Ah bah, il y a des militaires haut gradés russes qu'on connaît, il y a des militaires ukrainiens haut gradés qu'on connaît. Je dirais, on sait aussi que en Ukraine, il y a une diversité, je dirais, de populations avec différentes origines ethniques. Il y en a qui sont d'origine hongroise, il y en a qui sont d'origine polonaise, il y en a qui sont d'origine roumaine, il y en a qui sont d'origine russe. Donc l'Ukraine, c'est un peu un melting pot qui a été rassemblé de manière pratiquement artificielle après, effectivement, la chute du mur de Berlin. Bon. Ce qui est aujourd'hui un peu intéressant de regarder, c'est quand même qu'il y a une évolution, moi, que j'observe, peut-être que vous ne l'avez pas observé, mais dans les dernières semaines, il y a une évolution par les médias occidentaux, et en particulier par les médias français, sur, effectivement, ce qui se passe au niveau du front militaire. Ouais. Et pour la première fois, on entend, bah, tiens, effectivement, les militaires russes ne sont pas forcément les plus mauvais qu'on croyait, ne sont pas les plus idiots qu'on croit non plus, alors qu'avant, ils étaient mauvais, ils n'étaient pas bons. Et il faut savoir que cette propagande occidentale de dire ils sont mauvais a favorisé, je dirais, la défaite des Ukrainiens. Il faut bien l'entendre. Et ça, c'est, je dirais, une analyse par des militaires, mais uniquement par des stratèges. C'est que le fait, en communication, de dire qu'ils sont faibles, etc., ça veut dire que nous, on est plus forts, qu'on est supérieurs. Et donc, on se croit supérieur. Et ça, c'est très mauvais dans un conflit, de se croire supérieur à l'autre. Il faut accepter de toujours considérer que l'autre est supérieur à soi. Sinon, très souvent, c'est celui-là qui perd.
Aujourd'hui, on parle de contre-offensive depuis certaines semaines. Mais quid de la contre-offensive, finalement?
Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord, je dirais, l'aspect militaire. Quelle contre-offensive? Est-ce qu'elle est purement militaire ou est-ce qu'elle est aussi dans d'autres domaines? Ça, c'est la question.
Communicationnelle?
Ah bah, il y a une guerre qui peut être à la fois diplomatique, qui peut être économique, qui peut être financière, qui peut être, je dirais, effectivement sur le terrain, mais qui revêt différents aspects. Alors, on parle beaucoup, je dirais, des tranchées, mais une partie du conflit se situe bien ailleurs, au niveau des rivalités en termes, effectivement, de paiement des pétroles, de paiement du gaz, et de voir comment les accords se font, en sachant que pour la première fois en février dernier, le pétrole a été, le yuan a été la monnaie qui a dépassé le dollar en termes de transfert de marchandises.
D'échange.
Au niveau du monde, pour la première fois en février. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est extrêmement important.
Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas?
Moi, je dois dire qu'aujourd'hui, mon point de vue personnel, c'est que je souhaite une grande liberté, moi. Plus les pays sont libres, plus les hommes sont libres de faire ce qu'ils désirent faire, et mieux c'est. Si on impose, je dirais, un carcan, on voit qu'aujourd'hui, ce carcan, il est en train de sauter.
Il implose.
Parce qu'il y a eu, malheureusement, les Américains ont été trop loin, ils ont détruit le Nord Stream 2, ils ont imposé un certain nombre de choses. Les pays africains, les pays asiatiques, les pays d'Amérique du Sud, ils ont vu que s'ils laissaient de l'argent dans une banque occidentale, on pouvait leur piquer. Donc ils se sont dit, mais c'est pas possible, je vais pas maintenant laisser mon argent dans les banques occidentales.
Oui, ça, c'est le vrai problème.
Donc dans cette guerre, il y a des aspects économiques, il y a des aspects financiers, il y a des aspects de relations internationales, de marché, plus ou moins de marché. Et aujourd'hui, quand même, les leaders au niveau du marché mondial, c'est quand même les Chinois.
C'est les Chinois. Et au niveau de la contre-offensive, quid ? Est-ce qu'il y a des territoires qui ont été récupérés ? Est-ce que finalement le fait de faire exploser le barrage a contribué à ce que cette contre-offensive n'ait pas le succès escompté ? Quid de tout cela ?
Quid ? Ça, je veux dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs aspects techniques. Il est certain que les Russes ont installé et ont pris le temps, puisque pendant 6 mois, on devait avoir une contre-offensive ukrainienne. Ils ont eu le temps de préparer une démarche défensive.
Tout à fait.
Bon. Donc ils ont mis une ligne, deux lignes, trois lignes de défense. Après, là, quand on regarde ça d'un petit peu de loin, avec dans l'histoire de France, on se dit, mais ça me rappelle quelque chose, des lignes comme ça.
Oui, la ligne Maginot.
Ah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ?
Bah, la ligne Maginot, elle a été contournée.
Exactement. Donc la question qui se pose, enfin, je pense que n'importe quel Ukrainien, s'il veut faire la guerre, il va se poser la question de comment contourner cette ligne.
Alors comment peut-on la contourner aujourd'hui d'ailleurs ?
La question, est-ce qu'il va la contourner aujourd'hui, demain ou après-demain ?
Ouais. Mais comment la contourner ? On passe par où ?
Et est-ce que, avant d'aller plus loin, est-ce qu'ils ont la capacité de la contourner ? Est-ce qu'ils ont la capacité de la contourner, à ton avis, Stan ?
Je pense que tout est possible.
Mais comment faire ?
Bah, écoute,
par où peuvent-ils la contourner ?
Ça, c'est une question qu'on te pose, Père Henri.
C'est stratégique, colonel, quand même.
Tu connais les frontières qui existent entre l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie...
Par la Bulgarie ?
Et puis, la Bulgarie, c'est complètement...
Ah bah non, 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 je sais pas, je pose la question.
Mais dis ça parce que je suis bulgare d'origine.
D'origine, c'est pour ça. Je me suis dit, il l'interroge.
Ça fait un petit peu loin, là, quand même.
Tu vas peut-être mettre un porte-avions en Bulgarie, c'est pour ça.
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est vrai que les plages bulgares sont tout à fait sympathiques.
Varna, tu vois, la station
très jolie, très sympa.
Mais ça sera pas par là.
Alors la question se pose, effectivement, est-ce que contourner la ligne Maginot, entre guillemets, contourner la ligne de défense russe, est-ce que c'est faisable et dans quelles conditions ? Il faut vraiment se poser la question, c'est très important.
Alors déjà, est-ce que c'est faisable et ça se passerait par où ?
Bah, alors, si on passe par le nord, qu'est-ce qu'il y a au nord ?
Alors, le nord, bah là...
Dans la frontière au nord, je dirais, il y a toute la ligne, comme ça,
ouais.
Qui va du sud, c'est-à-dire de la mer Noire, jusqu'à... Mm-hmm.
Je vais me remettre une carte parce que...
Ouais, moi aussi, ouais, grave, parce que là, je suis un peu perdu.
Voilà, et là, vous avez vu que nous avons des incultes à la radio.
Alors toi, tu peux parler. Hein.
Bah oui, je me mets dedans.
Au nord de l'Ukraine, il y a effectivement la Biélorussie.
Et oui.
Qui a pris
position... C'est pas possible.
C'est pas possible. Il y a une tentation et une tentative, tu as peut-être vu, du côté de Belgorod, des Ukrainiens d'attaquer un peu de ce côté-là. En fait, c'est vrai que les Américains, pour l'instant, ont bien... n'interdit pour que le territoire, je dirais, biélorusse et le territoire russe soient attaqués par les Ukrainiens. Et c'est vrai que si on commence à attaquer les Russies, c'est pas du tout du même acabit. On n'est plus dans le même registre. Ensuite, il y a un autre aspect des choses, c'est que dernièrement, il y a eu des déclarations qui ont été faites par le président de Biélorussie et par M. Poutine sur un accord concernant quoi ? Est-ce que vous vous souvenez de quel est l'accord qui a été passé il y a quelques mois, là, quelques semaines ?
Entre Poutine et le président biélorusse ?
Oui, tout à fait.
Alors, je sais qu'il y a des armes atomiques qui sont sur le territoire biélorusse.
Sur les armes nucléaires. Donc, effectivement, maintenant, les Russes ont déployé des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, sous contrôle russe. Donc ça, c'est une parade pour dire, si vous contournez par là, on ne va pas jouer au con, mais on fera quelque chose. Si vous étiez russe, maintenant, si par exemple, Stan, tu étais russe... S'il te plaît, tu peux laisser ta caméra tourner.
Oui.
Si tu peux répondre à cette question, c'est effectivement si tu étais, toi, russe, si effectivement tu voyais que la Biélorussie commençait à être menacée, là où tu as mis effectivement des armes tactiques, je dirais, nucléaires, qu'est-ce que tu ferais pour montrer que tu n'es pas content ?
Bah, ce qu'il fait actuellement.
Non. Pour montrer que ça va trop loin et que tu ne peux pas laisser les Ukrainiens ou, je dirais, les pays qui sont derrière l'Ukraine... commencer à investir la Biélorussie. Qu'est-ce que tu ferais ?
La bombe atomique, je l'utilise.
Avant d'utiliser en Biélorussie, qu'est-ce qui peut se passer comme démonstration de force ? Il est très possible que les Russes, si jamais les Américains les poussent à bout, je ne pense pas qu'ils le fassent, c'est que les Russes, dans le désert qui se trouve en Sibérie, ils feront péter une bombe atomique à titre d'essai chez eux. Pour dire, attendez,
c'est radical.
Nos bombes, puisque il faut savoir que Al Gore et tout un tas d'Américains, des faucons, disent, de toute façon, les Soviétiques, ils disent qu'ils ont de nucléaire, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et donc, et je pense que, effectivement, ce jour-là, Poutine n'hésitera pas à dire, attendez, moi, je fais péter une bombe là. Si je peux la faire péter là, donc, je peux la faire péter là.
À l'heure actuelle, mettons que tu sois donc, dans le staff de Vladimir Poutine, toi, c'est une option que tu pourrais mettre en place.
Je suis dans aucun staff.
Non, mais au cas où.
Je me dis simplement c'est que j'entends que...
Genre, c'est une idée, quoi. J'entends, tu lances.
Oui, j'entends simplement qu'il y a, en termes de gestion d'une crise comme ça, quelqu'un comme Poutine, c'est pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi. Donc, il faut pas oublier non plus ce qui s'est passé à Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé à Cuba il y a une cinquantaine d'années ? C'est
la menace nucléaire.
Et oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les Soviétiques, à cette époque, voulaient mettre des missiles nucléaires à Cuba. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Américains ont tapé du poing sur la table et Khrouchtchev a accepté de retirer les missiles. Bon, de la même manière, je suis intimement persuadé qu'il ne faut même pas prendre les Russes pour des idiots, que si ça commence à jouer comme ça, ils feront pareil. Bon, ils diront stop, attention. Et les Américains diront ok, on arrête. Parce que les Américains n'ont pas tellement le désir aujourd'hui d'avoir une petite bombe sur Washington.
Non, c'est sûr.
Donc c'est clair que là, deuxième aspect des choses qui a révélé ce conflit, et je pense que tout le monde l'a découvert, c'est que les Russes, justement, détiennent des armes que ne détiennent pas les Américains. Donc les armes hypersoniques, aujourd'hui, quand ils déboulent un Mach 7 ou un Mach 8, voire plus, eh bien, le porte-avions... le silo américain où il y a effectivement des missiles stratégiques, il ne peut rien faire. Hein.
Il peut rien faire s'il y a...
Donc le système ABM, le fameux système ABM, ne fera rien.
Toutes les défenses solaires, etc., c'est trop rapide ?
Non, beaucoup trop rapide. Donc il y avait uniquement à l'époque du président Reagan, Reagan avait lancé un projet qui s'est arrêté, qui était la guerre des étoiles.
Ouais, Star Wars.
Voilà, Star Wars. Mais c'était vraiment un projet. Et c'est un projet qui me permettait effectivement d'une protection à des niveaux beaucoup plus élevés, qui n'ont pas été suivis. Mais aujourd'hui, les Russes, avec ces systèmes-là, ils peuvent pénétrer toute la défense américaine. Alors, si j'étais américain, je dirais, ok, je veux me taper la Russie, je veux l'écraser, donc il faut que je trouve d'autres moyens. Et d'autres moyens, ça peut être d'autres moyens, ou ça peut être plus tard. Mm-hmm. De la même manière qu'entre 2014... quand il y a eu effectivement des problèmes dans le Donbass et qu'il y a eu effectivement la révolution orange, etc., donc en Ukraine, et qu'il y a eu donc le changement de pouvoir en Ukraine poussé par les services secrets américains, de la même manière, entre donc 2014 et 2022, les Russes, eux, ils se sont préparés au conflit. Ils ont tout de suite vu qu'il y avait un conflit, ils se sont préparés. De la même manière, on peut penser qu'aujourd'hui, les Américains, en vue, je dirais, des élections, vont sans doute être obligés de faire une pause dans leur agressivité, parce que sinon, à mon avis, ils auront des problèmes. Et en même temps, ils peuvent raisonner en disant on voit qu'on n'est pas les meilleurs, en particulier à cause des missiles hypersoniques, à cause de différentes choses, à cause en particulier du problème du dollar, à cause aussi des accords entre la Chine, qui a répété encore récemment, entre la Chine et la Russie, et les diplomates chinois ont répété encore très récemment qu'ils ne lâcheraient pas la Russie et qu'ils l'aideraient. Alors bien sûr, Blinken a été voir à Pékin pour dire oh là là, attention, vous ne donnerez pas d'armes. Les Chinois n'ont jamais dit qu'ils ne donneraient pas d'armes d'une manière ou d'une autre, même si dans la communication ça a été dit, c'est pas vrai. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les Chinois sont derrière la Russie. C'est-à-dire que si on touche à la Sibérie, on touche à la Chine. Il faut bien le savoir. Et ça, les gens n'en sont pas conscients. Parce qu'on ne voit pas quand même la puissance qui existe en Chine et la puissance qui existe en Sibérie. C'est-à-dire que la Sibérie, aujourd'hui, entre guillemets avec le réchauffement climatique, on va en parler plus tard, a effectivement une capacité, je dirais, d'extraction de minerais, d'extraction de terres rares, qui est extrêmement importante et qui fait toute l'envie de toute l'économie américaine. C'est-à-dire, les Américains n'ont qu'une idée, c'est piquer, je dirais, ce trésor-là. Et là, je dirais que la sentinelle chinoise qui est à côté de la Sibérie veille sur le grain. Et ça, je pense que les Européens sont complètement naïfs, parce que le résultat du conflit actuel, c'est quoi ? C'est que les Américains, en permettant et en permettant tous les jours ce conflit, puisqu'ils fournissent des armes pour que le conflit continue, malgré les tentatives de négociation dont on pourra parler, eh bien, ça fait quoi ? Ça fait l'affaiblissement de l'Europe et un petit affaiblissement de la Russie, mais très faible. Ça fait un affaiblissement de l'Europe très important. Pourquoi ? Alors, pourquoi ça peut faire un affaiblissement de l'Europe ? Fred ?
Pourquoi ça peut faire un affaiblissement de l'Europe,
ce conflit actuel ? Pourquoi ?
Bah parce que de toute manière, au niveau énergétique déjà, hein ?
Déjà au niveau énergétique, premièrement.
Au niveau politique, deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas d'unanimité des pays autour.
Voilà.
Elle n'existe pas.
Il y a une division.
Une division profonde entre les Hongrois notamment.
D'où tu as peut-être entendu les propositions allemandes récentes de refaire une Europe à quelques pays.
Ouais.
Tu as peut-être entendu cette proposition.
Non, je ne l'ai pas entendue, mais je l'entends.
Et également, d'où également les problèmes, si tu veux, d'industrie allemande. Donc l'industrie allemande est un gros problème actuellement. D'où, alors actuellement, la manipulation américaine qui dit « mais je vous aime beaucoup, mes petits, je vais vous mettre en place en France une usine de semi-conducteurs à Grenoble, merci Monsieur Macron, pour 5 milliards effectivement de dollars, et aux 5 milliards d'euros, c'est pareil, et puis une usine en Allemagne pour 10 milliards. » Alors pourquoi les Allemands ont pour 10 milliards, nous pour 5 ?
Peut-être parce
qu'on est un petit peu moins gentil, peut-être que les Allemands.
C'est l'importance qu'ils donnent à l'Allemagne. On est moins gentil, voilà. Bah, on subit les conséquences.
On peut aussi plaisanter en disant ils savent très bien, les Allemands, que ce sont les Américains qui ont coupé le gazoduc avec la Russie. Et c'est une compensation. Donc il y a un accord de compensation qui est sans doute en train de se passer. Alors ça, c'est des questions qui se posent, mais il est clair qu'aujourd'hui, ça affaiblit l'Europe, puisque les Américains s'imposent comme constructeurs partenaires en Europe, ce qui enlève l'indépendance de l'Europe. Donc ça prive l'Europe de son indépendance en termes de stratégie, en termes de, je veux dire, de capacité d'avoir des puces qui, demain, vont dominer toute l'électronique du monde.
Alors l'Ukraine dans tout ça ?
Eh ben,
parce que l'Ukraine souhaite intégrer l'Europe, souhaite intégrer l'OTAN. Ben,
L'Ukraine aujourd'hui, il y a 40 000 obus, je dirais, qui sont tirés par les Russes, quand l'Ukraine en tire 4 000. Les usines d'armement...
10 fois plus.
Oui. Okay. Les usines d'armement occidentaux ne savent pas fournir la quantité d'obus
suffisante
parce qu'ils n'ont pas les chaînes industrielles qui fonctionnent aujourd'hui, à tel point que l'OTAN a demandé à certains pays ex, je dirais, pacte de Varsovie, de relancer leur chaîne de fabrication d'obus de type 152 mm, je dirais de type soviétique, parce que ils ne savent pas fabriquer les obus occidentaux avec un débit suffisant. Donc ça, ça a été lancé, mais c'est vrai que ça ne va pas avancer. Donc ce qu'on peut constater, c'est que le conflit aujourd'hui, même si on rajoute 3 avions et 4 bateaux, ça ne va pas aller très loin. Alors ce qui peut aller un peu plus loin, c'est si effectivement le pont qui a sauté là, je pense qu'effectivement il y a des opérations de contournement par le sud pour récupérer la Crimée.
C'est ça, on parlait par le sud, c'est possible.
Par le sud, je dirais, c'est par la Crimée. Et si c'est par la Crimée, c'est effectivement par l'embouchure du Dniepr.
Oui.
Et donc, effectivement, on peut penser que si le Dniepr a été un peu cassé, le barrage a été cassé, c'est que d'une part...
Pour éviter une contre-offensive sur ce territoire-là.
Bah, je pense que ça, effectivement, on va considérablement gêner la chose. C'est qu'a priori, ça gêne plus en termes de surface des Russes que les Ukrainiens.
Oui.
Mais c'est vrai que ça empêche le conflit
de descendre,
sauf en utilisant éventuellement des vedettes rapides ou d'autres choses comme ça. Alors je pense que les Storm Shadow, donc les missiles qui ont été, je dirais, donnés par l'Angleterre pour casser à longue distance, effectivement, ont tiré sur ce pont. Alors s'ils continuent à faire que ça, ça peut embêter un petit peu les Russes. Mais à ce moment-là, là encore, dernièrement, si vous avez suivi cette semaine ce qui s'est passé, les Russes ont tiré sur les dépôts de munitions. Donc, quand les dépôts de munitions explosent, il n'y a plus de munitions. Quoi.
Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de pseudo-potentiel piégeage de la centrale nucléaire par des barils
qui
sont visibles
Alors, moi, je ne connais pas le détail de ce qui s'est fait ou pas fait. Tout ce que je sais, c'est que tout ce qui se passe dans ce conflit, il y a de l'information et de la désinformation qui est mélangée. Donc on vit en permanente, ça fait partie du combat, ça fait partie de la guerre, il y a une désinformation. Bon. Il y a des informations qui sont fiables par certains recoupements, c'est-à-dire que les services de renseignement, et quand on fait une analyse, on recoupe un certain nombre d'informations de différentes sources pour confirmer qu'effectivement il y a eu telle chose et telle chose. Mais clairement aujourd'hui, la contre-offensive, elle débouche pas. Même, je dirais même plus, d'après les informations récentes de ce matin, les Russes... Alors en gros, il y a 3 axes de contre-offensive ukrainienne, une là, une là, une là, et les Russes font des contre-offensives entre deux.
C'est un jeu d'échecs.
Je pense que c'est effectivement un jeu, parce que de toute façon, ils n'ont même pas atteint, pour l'instant, les zones de sécurité des Russes.
Ils se donnent l'été, semble-t-il, mais...
Bon, moi je pense que si on laisse, encore une fois, l'abcès qui est là, c'est parce que c'est aussi pour pourrir, il faut dire pourrir la vie de l'Europe. Les Américains n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une Europe puissante.
Alors, pour conclure ce sujet-là, moi, il y a un personnage qui m'interpelle. Mmh. C'est le patron du groupe paramilitaire, là, Wagner.
Oui.
Evgeny Prigojin. Alors, lui, qui est un personnage médiatique impressionnant. Alors, il s'en prend au ministre de la Défense russe, à tir larigot. C'est-à-dire, on se dit, est-ce que ce mec-là était retourné ? Aujourd'hui, on pense même que si jamais Poutine sortait du jeu, c'est lui qui serait susceptible de prendre le pouvoir au Kremlin. Est-ce qu'il marche pour les Américains ? On sait que Wagner, c'est dans l'Afrique, enfin, c'est dans le monde entier, et a priori, c'est des investissements privés, enfin, russes.
Oui.
Du coup, quid, quel est ton sentiment par rapport à ce personnage ? Ce terrible personnage.
Je ne le connais pas.
Personnellement.
Tu l'as pas fréquenté dans une vie antérieure.
Je te le souhaite de ne pas le connaître personnellement.
Non, parce que ça a l'air d'être un boucher. Il me fait penser à Benito Mussolini.
Moi, ça me rassure de ne pas le connaître personnellement.
Ouais, c'est ça. Pas envie de le rencontrer en soirée.
Non, pas du tout.
Disons que, de la même manière que Poutine a été traité d'Hitler et de tous les noms, qu'il a été maltraité par toute la presse, alors que, je dirais, il a quand même du recul, qu'il ne fait pas n'importe quoi, qu'on voit aujourd'hui que... voilà. Je pense que il y a un jeu médiatique, encore une fois. Il y a de l'information, il y a des informations. Et ils en jouent. Les Russes en jouent. Et
donc lui, il roule vraiment pour les Russes.
Non, mais moi, je pense que, d'une part, il roule pour les Russes, mais qu'en même temps, faire des déclarations un petit peu fracassantes dans un sens, dans un autre, ça peut aussi attirer des gens à lui, en termes de travail. Je prends un exemple. Il dit qu'en gros, comme tu viens de le dire très bien, de toute façon, c'est un salaud, puis moi, de toute façon, Poutine, je vais me le taper, etc. Eh bien... tous ceux qui ont le désir de taper Poutine...
Oui, passent par lui.
Passent par lui. Et les Russes vont savoir qui a le désir de le taper.
Oh, c'est beau. Bah voilà. Bon, bah merci, colonel, pour ces belles infos. On revient dans quelques instants.
Faut être très prudent.
Faut être très prudent.
Faut être un petit peu, il y a plusieurs tiroirs.
Avec nous.